BW. Vue d'Allemagne.
L'Allemagne veut faciliter l'accès à l'emploi à la main-d'œuvre étrangère qualifiée. Les partis du gouvernement se sont mis d'accord pour réformer la loi sur l'immigration afin d'attirer les travailleurs étrangers, mais sous certaines conditions. Le mois d'octobre est traditionnellement riche en événements culturels. Le Salon du Livre a ouvert ses portes à Francfort avec une intervention remarquée de l'auteur féministe nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Tandis qu'à Londres, c'est l'art africain qui était à l'honneur à la foire d'art contemporain 154. Voilà pour le menu de votre magazine Vue d'Allemagne. Willkommen et bienvenue. Le marché du travail allemand est en plein essor. Le chômage est à un niveau historiquement bas et la croissance économique se porte bien. Tous les indicateurs sont au vert actuellement en Allemagne, mais pour combien de temps? En raison du vieillissement de la population, de nombreux employeurs ont déjà du mal à trouver suffisamment de personnel qualifié. Après des mois de discussions sur les questions migratoires, la coalition gouvernementale a donc mis de côté ses divergences et s'est mise d'accord sur les principes de base d'une nouvelle loi sur l'immigration qui vise à faciliter l'accès au marché de l'emploi aux travailleurs formés en dehors de l'Union européenne. Horst Seehofer, le ministre de l'Intérieur, lors de la présentation du compromis le 2 octobre, après une nuit de négociations.
Insgesamt halte ich die Eckpunkte für eine wirklich gute Grundlage.
Globalement, je trouve que les points proposés sont vraiment une bonne base. Nous créons ainsi un cadre pour une immigration plus contrôlée de main-d'œuvre qualifiée de l'étranger. C'était un objectif de la coalition et je suis tout à fait satisfait et d'accord avec ce que nous avons décidé cette nuit.
La nouvelle réglementation doit permettre aux ressortissants de pays tiers de travailler en Allemagne, même sans diplôme universitaire, pour une durée de 6 mois, à condition d'avoir une qualification professionnelle reconnue, de parler suffisamment l'allemand et de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Selon les estimations, l'Allemagne a besoin d'attirer environ 440 000 travailleurs qualifiés chaque année pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Celle-ci coûte déjà environ 30 milliards d'euros par an en perte de croissance économique. Hubertus Heil, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales.
La première chose, c'est que nous ne permettons plus seulement à des personnes diplômées de venir en Allemagne, mais que nous ouvrons cette possibilité aux personnes qui ont des qualifications professionnelles, parce que nous en avons besoin en Allemagne. Et la deuxième chose, c'est que nous permettons à des personnes ayant une qualification professionnelle et parlant l'allemand de venir chercher un emploi ici en Allemagne pendant 6 mois.
Reste à définir comment évaluer le niveau de qualification professionnelle ainsi que celui d'allemand requis. La Fédération des industriels allemands a appelé le gouvernement à ne pas placer la barre trop haut pour que la nouvelle loi ait l'effet souhaité. En plus d'attirer les travailleurs qualifiés pour compenser les besoins du marché du travail, le gouvernement d'Angela Merkel veut également régler une bonne fois pour toutes la question controversée des migrants dits tolérés. Il s'agit de demandeurs d'asile déboutés qui ne peuvent pas être immédiatement renvoyés dans leur pays et attendent souvent plusieurs années de connaître leur sort. Leur nombre était estimé à environ 150 000 en 2017. À l'heure actuelle, ces tolérés sont traités différemment selon l'endroit où ils se trouvent en Allemagne. Et même quand ils ont trouvé un emploi, ils doivent redouter d'être expulsés à tout moment. Cela aussi doit changer avec la nouvelle réglementation. Horst Seehofer.
Sie haben doch alle die Probleme, die immer wieder auftauchen.
On voit toujours les mêmes problèmes revenir sur le devant de la scène. Quelqu'un est ici depuis 4 ans, il travaille et tout à coup, il est arraché à son entreprise pour être expulsé. La population locale se demande si c'est nécessaire. Donc, on a besoin de règles compréhensibles, praticables et non bureaucratiques.
Le gouvernement se veut donc pragmatique à un moment où il est fragilisé par la montée de l'extrême droite. Du côté de l'opposition, les critiques ont été mesurées. Le parti populiste AfD a dénoncé la possibilité pour des millions de candidats à l'immigration de rester une fois arrivés en Allemagne, tandis que le parti de gauche Die Linke redoute des conséquences négatives dans le secteur des bas salaires. La réglementation est prévue pour 5 ans, mais le projet de loi doit encore être finalisé et proposé au Bundestag. Les élections régionales qui ont lieu en Bavière se 14 octobre pourrait entraîner des modifications, étant donné que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit préparer le projet de loi et que l'avenir politique du ministre Zéhofer est incertain après ce rendez-vous électoral. Quant aux conséquences sur la fuite des cerveaux dans les pays d'origine des personnes qui tenteront l'aventure en Allemagne, elles n'ont pas été évoquées dans la présentation du compromis.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout.
Il n'y a pas que le travail dans la vie. En Allemagne, le plus grand rendez-vous mondial de l'édition se tient ces jours-ci à Francfort. À l'ouverture de sa 70e édition, le Salon du Livre a invité l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, figure du féminisme en Afrique. Celle-ci a salué l'émergence, il y a un an, du mouvement de libération de la parole MeToo, mais elle a estimé que le chemin à parcourir était encore long.
All over the world today, women are speaking up.
Partout dans le monde aujourd'hui, les femmes prennent la parole, mais leurs histoires ne sont pas encore vraiment entendues. Il est temps pour nous de ne plus nous contenter de belles paroles et de dire que les histoires des femmes s'adressent à tout le monde, pas seulement aux femmes.
L'auteur nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, qui appelle notamment les hommes à lire davantage de livres écrits par des femmes. Et tandis que le Salon du Livre de Francfort ouvrait ses portes, celle de la foire 1.54 refermait les siennes à Londres. La 6e édition de la foire d'art contemporain africain a été exceptionnelle selon les organisateurs. Partie avec 15 galeries en 2013, elle en a présenté 43 cette année aux quelques 18 000 visiteurs. 130 artistes étaient également invités. Parmi les stars présentes, l'artiste égyptien Ibrahim El Salahi, le photographe sud-africain Peter Hugo, le dessinateur kényan Evans Mbunga ou encore le plasticien sud-africain Ati Patraruga. 1.54 s'étend désormais sur trois grandes villes, Marrakech, New York et Londres. Le choix de Londres comme base s'est imposé rapidement à la fondatrice Touria El Glaoui pour son statut de capitale internationale multiculturelle ouverte sur le monde et pour sa situation géographique au carrefour de plusieurs continents. Rencontre sur place avec ce reportage de Mélissa Chemam, qui a également suivi quelques artistes.
Touria El Glaoui a fondé 1.54 en 2013. Elle est partie d'un constat simple, très peu d'artistes africains sont représentés dans les grandes foires, collections et expositions d'art contemporain.
Il y avait 0,05% d'artistes africains dedans, je les comptais sur les doigts de la main. Frise avait deux galeries sud-africaines seulement sur les 200. Donc ça savait qu'ils avaient peut-être 10 artistes africains sur les 1000 et quelques artistes qu'ils représentaient. Moi je trouve que ce ratio n'est pas confortable par rapport à la création africaine et le fait qu'on représente 54 pays. Depuis, on a quand même des galeries internationales qui ont commencé à représenter des artistes africains.
Après des années à collectionner des œuvres sur le continent africain, Touria a voulu créer une foire leur étant dédiée. Aujourd'hui, 1.54 a lieu trois fois par an à New York, Marrakech et Londres et a largement étendu la présence des artistes africains en Occident.
Moi, je viens d'une famille d'artistes et donc quand j'allais dans ma vie professionnelle précédente beaucoup en Afrique pour développer des marchés complètement différents, je faisais toujours un effort de découvrir les scènes artistiques locales parce que ça m'intéressait vraiment. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir des artistes que j'achetais d'ailleurs, mais j'étais persuadée que je rentrais à Londres, je les trouverais dans une galerie ou aux États-Unis où je travaillais beaucoup. Et en fait, à chaque fois que je revenais, il n'y avait pratiquement aucune trace des talents que j'avais découverts en Afrique. Donc plus l'idée m'est commencé à me tourner en tête, plus j'ai essayé de comprendre si ça avait été déjà fait, s'il y avait vraiment un marché qui serait intéressé et où il fallait en fait lancer cette plateforme qui donnerait de la visibilité aux artistes contemporains africains.
Parmi les 130 artistes invités, de nombreux Sud-Africains comme Anton Kannemeyer. Il utilise la bande dessinée pour critiquer des stéréotypes, notamment raciaux, en détournant des références, par exemple au Tintin de Hergé.
A lot of the work that I have here is, I suppose, could be regarded as kind of a parody on the Tintin in the Congo.
Nombre des œuvres que j'ai exposées ici pourraient être lues comme des parodies du livre Tintin au Congo. Il a mal vieilli du fait de tous ces clichés racistes, mais si vous regardez mon travail, il s'inspire de la parodie. Et je suis très conscient d'utiliser des stéréotypes et des problèmes que cela implique. Je ne veux pas tomber dans la facilité. Car en tant que satiriste, on ne rit pas de quoi que ce soit, on utilise l'esprit et l'humour pour mettre l'accent sur des sujets problématiques, en espérant que le public s'interroge sur notre dessin ou notre œuvre.
To make people discuss this issue or this cartoon or whatever it is that you made,
L'idée n'est pas de faire rire sur le dos des gens, mais que les spectateurs regardent ces œuvres et deviennent conscients d'un problème. Qu'ils rient ou non n'est pas important. Ce qui compte est qu'ils en prennent conscience et corrigent ces problèmes.
Nou Barreto, photographe et plasticien bissau-guinéen, a présenté une de ses œuvres l'an dernier à New York, ce qui lui a ouvert de nombreuses portes. Cette année, à Londres, son tableau intitulé « État des Unis d'Afrique » détourne la bannière étoilée américaine sous des couleurs plus africaines, rouge, jaune et vert.
Je passe ma vie comme artiste à sillonner les choses qui dérangent la société. Je navigue dedans et c'est en fait quelque sorte un médium pour moi d'aborder ce mal de la société que je mets aux yeux de tout le monde. Je dis tout souvent, un artiste, c'est celui qui sait exagérer les choses. Et pour exagérer, il faut toujours aller dans le sens de ce qui est plus visible, ce qui tape en premier, ce qui est, qu'on voit tout de suite. Et rien de plus simple que ça, d'évoquer le drapeau américain qui est connu. Je me suis dit, ah, ok, je vais parler de ça en passant par le drapeau. L'idée est née comme ça. Et j'ai décidé, en fait, juste de changer les couleurs.
Une exposition rassemblant ces tableaux sur ce thème se tiendra à Paris en novembre à la galerie Nathalie Obadia. Pour Touria, ces artistes et galeristes sont eux-mêmes des leviers de changement et des passeurs importants pour l'art contemporain africain.
Souvent, il suffit qu'il y ait une seule galerie pour faire bouger toutes les choses ou un seul artiste. Donc, par exemple, au Cameroun, on n'a pas vu grand-chose. Barthélemy Togo, avec son centre d'art, fait bouger incroyablement les choses. Il est retourné, il a bâti son centre d'art à Banjoun et a créé une dynamique incroyable. Au Ghana, il n'y avait rien jusqu'à 2 ans. On a une galerie d'art contemporain qui s'appelle la Galerie 1957, qui a du coup créé complètement différentes énergies, en créant même des safaris d'art où les gens peuvent aller découvrir Accra, qu'il organise non seulement pour sa galerie, mais pour tout ce qu'il y a autour. Et je pense qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire bouger les choses, en fait.
Quant à 1.54, elle rouvrira ses portes de nouveau en février 2019 à Marrakech. Mélissa Chemam, à Londres, pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de ce numéro de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité à la DW. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !